Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast du service des sports de la Montagne consacré à l'actualité de l'ASM Clermont, une actualité mouvementée, un peu triste, en tout cas chahutée. Les Clermontois défaits 42 à 3 ce week-end à La Rochelle, et pour en parler à mes côtés, deux journalistes spécialistes de la rubrique rugby du service des sports du journal de la Montagne, Christophe Buron et Didier Cros. Bonjour messieurs.
Salut Greg, salut à tous.
Bonjour Greg, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et cette question, est-ce que cette déblacle à La Rochelle va marquer un tournant dans la saison de l'ASM? C'est en tout cas la question qu'on va se poser. Didier, tu étais à La Rochelle. Bon, on n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal pour imaginer la triste mine, la grise mine des Clermontois au sortir de cette rencontre.
Oui, la grise mine, mine des confites, la mine des mauvais jours, une mine qu'on avait plus trop l'occasion de voir au mois de janvier, qu'on a revu malheureusement ces deux dernières semaines, et une mine après une défaite qui pose quand même pas mal de questions et qui a laissé aussi le staff assez pantois et assez dubitatif, non pas sur la défaite en elle-même, mais sur le contenu et sur la manière avec laquelle elle a été concédée au stade Marcel de Flandre.
Alors, cette question justement, est-ce que cette débâcle va marquer un tournant dans la saison de l'ASM, Christophe, oui ou non?
Brutalement comme ça?
Ouais, comme ça. Oui ou non, si tu
bah, j'ai envie de dire, ça peut être un tournant.
Pour toi, Didier?
Oui, ça peut être un tournant, mais j'ajouterais que malheureusement, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu un petit peu de manière récurrente depuis le début de la saison.
Donc non pas plus, quoi, en fait. C'est ce que tu veux nous dire un peu, quoi.
Ouais. Pas beaucoup plus.
Ok, donc plutôt non. Ok.
J'aurais juste précisé que c'est la plus grosse défaite, enfin, le plus grand écart de points depuis un match au Racing en janvier 2018 où ils avaient pris un 58-6.
C'était il y a 6 ans donc. Hein.
C'était il y a 6 ans et ouais. Ça doit faire partie des deux plus grosses défaites, là, les deux de ces 15 dernières années. Hein. Donc 39 points d'écart, c'est pas neutre, surtout avec 3 points de marqué quand même.
C'est un argument pour dire justement que ça a marqué un tournant.
Ça prouve la faiblesse et l'indigence, la prestation de l'ASM. Oui.
À côté de ça, les week-ends se suivent. Alors, ils peuvent se ressembler, Didier. On se rappelle que les Clermontois avaient été défaits à Clermont. C'était le week-end précédent face à Toulouse, 39 à 35, me semble-t-il. C'était le score.
37-33,
pardon.
C'est pas tout à fait la même défaite quand même.
Ah oui, pourquoi?
Bah, déjà parce que on avait vu du jeu, les Clermontois avaient marqué 5 essais. Ça avait pêché dans beaucoup de secteurs, et bien évidemment, comme à La Rochelle, je pense à la touche, je pense à la défense, bien sûr. Mais il y avait eu quand même une petite révolte dans le jeu et une fin de match qui menait de 20 points, ils ont fini à 4 points. À La Rochelle, on n'a rien vu de tout ça, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui laissait présager, on va parler, hein, rentrer dans cette rencontre de la Rochelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui laissait présager, ne serait-ce que par rapport à cette première mi-temps? Grosso modo, on a vu les Clermontois s'installer une fois dans le camp Rochelet en une mi-temps. Enfin, c'était famélique, cette première mi-temps de l'ASM. Est-ce qu'il y a quelque chose qui laissait présager un début de match, un début de rencontre de ce type-là?
Bah, alors, le début de rencontre n'a pas été si mauvais que ça.
Le tout début, ouais.
Il y a eu 5-6 minutes où même Clermont a réussi à mettre la main sur le ballon, à pousser le pilier gauche de La Rochelle à la faute pour obtenir 2 pénalités, marquer 3 points. Et dans ces premiers instants, rien ne laissait présager un tel naufrage. Hein. Malheureusement, très vite, dès que La Rochelle a été dans le camp clermontois, ils ont brêché et marqué. Là, on a vu que quand même, c'était très friable et très fragile.
Tout sur la première incursion, oui, Marc. Hein.
Première incursion, ouais. Premier temps de jeu fort.
Alors, pour revenir à ta question, c'était absolument pas envisageable et prévisible, surtout par rapport au contexte de ce match. Et du décor qu'avait planté Christophe Furios la veille, où il avait carrément donné rendez-vous à ses joueurs par rapport à tous les événements qu'on a déjà racontés, où dans la difficulté, un genou à terre, il fallait se relever. Donc il avait même dépassé le cadre largement du terrain. Hein. C'était un rendez-vous d'homme et on a vu le résultat. Donc c'est en ça que cette défaite peut m'inquiéter, oui. Il peut être un tournant, alors dans un sens ou dans un autre, parce que pour que ça soit un tournant et que ça redevienne positif, Je vois pas quel levier va pouvoir être activé pour relancer cette machine. Enfin, comme ça, quoi, sur un claquement de doigts, il va falloir trouver quelque chose. Si c'est un tournant, j'ai peur que ce soit un mauvais tournant.
Alors, c'est la question que je vais te poser, mais c'est ça. C'est parce que pour toi, ça va marquer un tournant, mais effectivement,
Il l'a mis en égard, Urios. C'est l'absence d'état d'esprit et cette mentalité qui fait que c'est. Enfin, il y avait des joueurs hier, c'était impressionnant de la manière dont ils ne se sont pas engagés, quoi. Enfin, de ne pas être à 100% dans l'engagement, quoi.
Ici, mon Ferrand.
Ce qui est assez regrettable aussi, c'est que ça aurait été la première fois de la saison, on peut dire, on met ça sur le compte de l'accident de parcours. Or, ce n'est pas la première fois de la saison. Ce n'est pas la première fois de la saison que Urios avait été obligé d'user de levier un petit peu dans le management, dans la psychologie pour booster ses joueurs. Donc, ça marche une fois, ça marche pas forcément deux ni trois fois, quoi. Donc à un moment ou un autre, comme disait Christophe, quel levier va bien pouvoir utiliser pour rebooster une équipe qui refait un petit peu, qui retombe dans les travers qu'il avait pensé soigner récemment. Donc c'est un peu le retour en arrière, un flashback sur ce que l'ASM présente de moins bon depuis le début de la saison, quoi.
Ici Montferrand, dans quelques instants on débattra, on présentera les top flops de la semaine. Pour l'instant on débat de cette question, est-ce que cette débâcle à La Rochelle va marquer un tournant, et je voudrais qu'on revienne sur une autre question. Recontextualiser un tout petit peu ce qui s'était passé la semaine précédente, le match, il y a eu des insultes, des mots très durs de la part de certaines personnes sur les réseaux sociaux à l'encontre des joueurs clermontois qui ont pu les blesser. C'était le cas d'aller éviter Raka. Christophe Urios avait décidé de donner le capitanat à Raka, et l'idée était de soutenir ses hommes, d'être avec son équipe, et que l'ASM montre une bien meilleure image que le week-end précédent, mais aussi montrer que effectivement le club soutenait les joueurs dans cette période difficile. La réponse des joueurs, c'est terrible quand on passe une semaine de ce type-là, qu'on termine par un match de ce type-là.
Ah bah oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il avait fixé rendez-vous à ses joueurs, et ses joueurs ne sont pas venus au rendez-vous, quoi, pour faire simple. Et c'est vrai que ça interroge sur plein de choses. Il y a quand même l'aspect sportif. On peut aussi parler du cadre sportif pur.
Il n'y a pas que du mental là-dedans.
Il y a peut-être aussi une leçon à tirer de ce match, c'est que l'ASM peut-être ne peut pas se permettre de se passer de certains joueurs pour rivaliser avec des écuries comme La Rochelle.
Tu penses à Moala, par exemple ?
Je pense à Moala derrière, à Simons devant, à peut-être Fritzi, à ces joueurs-là. Et puis, quand Urios a dit hier soir, il y a des joueurs pas au niveau, ou du moins pas à leur niveau, on peut être interpellé par la prestation d'un Faolo Fainga entre sa prestation contre Toulouse, qui valait 8, et celle de hier qui était bien, bien, bien moindre.
Alors, si je m'en réfère aux notes qui ont été parues sur le site internet de...
Alors, peut-être que Fainga a besoin d'avoir les Australiens autour de lui.
Ouais, la montagne, il était noté à 3,5 là sur
oui, oui, non, non. Il a été dans le marasme ambiant. Il n'y en a pas un pour relever l'autre hein, hier, hein, on est d'accord.
Ah, bah, visi vu, trois collectifs. Hein. Ouais. Et il n'y a pas eu que les lignes avant qui ont été en difficulté. La charnière, c'est 3 pour Jono, c'est 2,5 pour Diapileta.
Peut-être le seul qui a un peu sauvé la mise, c'est Slimani par rapport à son début de match, mais bon.
Oui, effectivement, il a mis le joueur adverse en difficulté. Ça lui permet d'avoir 4 sur 10 hein, à Slimani. Donc c'est un peu mieux que les autres, mais c'est pas terrible. Et puis la pire note, je crois qu'elle revient à Joris Jurand, c'est ça, 2.
Ah bah, qui, pour un de ses premiers matchs à l'ASM au poste d'arrière, n'a pas vraiment été convaincant. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu raté, oui.
Qui n'a pas convaincu. Si, non. Alors. Je vais vous poser la question différemment, parce qu'on dit est-ce que cette débâcle peut marquer un tournant pour l'ASM. Question différente, si on fait le 1 contre 1 des joueurs clermontois face aux joueurs rochelais, est-ce que concrètement l'ASM est en dessous partout ? Est-ce que effectivement les rochelais étaient plus forts ? Est-ce que tous les rochelais intrinsèquement sont plus forts sur la feuille de match ? Ou c'est pas le cas pour vous ?
Bah sur le match de hier, clairement.
Alors, après, sur la prestation, mais intrinsèquement sur la feuille de match.
Alors, intrinsèquement, Fainga peut rivaliser avec le talonneur de La Rochelle, il n'y a pas de problème. Mais si Fainga est en mode de son match contre Toulouse, pas celui d'hier soir.
Mais derrière, il y avait plus de talent du côté de La Rochelle que du côté de la SM. Hein, sur la ligne de trois quarts, il n'y avait pas photo. Quoi. Devant, bon.
D'abord, il y avait plus d'engagement, plus d'agressivité, plus de puissance. Mais bon, est-ce que ça aussi, c'est un état d'esprit? C'est la fameuse mentalité dont parle Christophe Furios.
Alors, il a dit, je veux le dire, il a dit mentalité de merde. Concernant son équipe, les mots sont durs. Tu l'as senti dans quel état d'esprit, toi, Didier?
Je l'ai senti dubitatif. Comment dire, il ne s'attendait pas à tel match, quoi. Je veux dire, ça a été une méchante, une désagréable surprise. Non pas la défaite, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient coché ce match comme étant un rendez-vous pour pouvoir ramener des points. Mais la manière l'a vraiment laissé pantois et l'a non, c'est plus que déçu, quoi. Ça l'a laissé dubitatif. Peut-être aussi sur le discours et sur les leviers qu'il avait utilisés, hein, parce qu'il lui-même s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Sur le niveau de son équipe, le niveau de certains joueurs. Je crois qu'il était... Ça allait au-delà de la déception, hein. C'était vraiment une désillusion, quoi.
Est-ce que... Je crois que c'est un des mots qui t'emploie en premier hier, c'est l'incompréhension.
Oui,
il est dans l'incompréhension, peut-être. Et là...
Est-ce qu'on n'est pas dans l'impasse pour l'ASM par rapport à ce que nous a... Tu te rappelles, Christophe, on avait fait l'interview du président de l'ASM, Jean-Claude Patz, qui disait on a du mal à recruter des GIFs. Or, par rapport au règlement, on est obligé d'aligner des GIFs et Christophe Furios est obligé de le faire. Il ne peut pas amener son équipe la plus compétitive puisque, en fait, certains de ses meilleurs éléments sont étrangers.
Certains, voire...
voire beaucoup.
La majorité.
Voire une grande majorité, oui.
Et là, aujourd'hui, ça veut dire qu'il est obligé de ne pas aligner sa meilleure équipe pour respecter le règlement et ne pas partir avec des points de retard la saison prochaine. Ce n'est pas l'impasse là, pour l'ASM cette saison.
Ah bah cette épée de Damoclès, ça va durer jusqu'au bout, hein, ça c'est clair.
C'est un gros dilemme, oui.
Et là, c'est vrai que ça pose problème pour un club qui veut accrocher le premier wagon, hein, ça c'est clair que ça va... Il y a un moment, ça va coincer, hein, ça, c'est évident. Et puis alors, il suffirait qu'il y ait des blessures de joueurs français, ça pourrait encore aggraver la problématique.
Ouais, clairement, on peut pas clairement à 9 journées de la fin. Je crois qu'on est à 9 journées de la fin. Hein, ne peut pas décemment dire on fait la croix sur le top 6 en termes de communication. Ça serait, terrible. Ça serait terrible.
Ils sont à 4 points. Hein, ils sont à 4 points.
Ils sont qu'à 4 points. En plus, c'est vrai que bon, ça serait.
Ils seraient 15 points.
Et puis, ça serait pas normal de tenir. Mais bon, la question pourra se poser à un moment ou à un autre, hein, par rapport à la participation à la Challenge Cup. Est-ce que plus tard, est-ce qu'il ne fera pas peut-être privilégié par rapport au GIF, par rapport à l'effectif, tout simplement, et à la profondeur de banque qui, on le voit bien, ne permet pas à l'ASM d'aligner une équipe compétitive tous les dimanches. Hein.
5 points d'avance sur le 13e, 4 points sur le 6e, 5 points d'avance sur le 13e. C'est très resserré, ce championnat.
Ils sont entre deux eaux, c'est qu'à le dire. Hein. Ah. Vraiment. Alors, c'est vrai que devant eux, il y a deux réceptions. Et deux équipes qui semblent à leur portée, quoi. Oyonnax qui est dernier et Pau qui est un peu dans les mêmes, un petit peu au-dessus. Donc, imaginons un carton plein sur ces deux matchs. Voilà, on n'aura peut-être pas le même discours, mais ça n'empêchera pas que.
L'air de rien, Pau, tu dis un peu au-dessus. Ils sont surtout un peu au-dessus de l'ASM et ça leur permettrait de les jouer pour le top 6 pour le coup. C'est un match du top 6, Pau.
Oui, mais bon, c'est dans 15 jours. Enfin, c'est dans 3 semaines.
Dans 3 semaines. Ouais. Oui.
Mais ça va tellement vite dans ce championnat.
Oui. Oui.
Mais là, ils sont obligés de faire deux victoires. Quoi. Enfin, c'est un quatrième échec.
Minimum 9 points là.
Quatrième échec à la maison, ça sera rédhibitoire pour le top 6. Mais en plus, ça pourrait être annonciateur d'une fin de saison plus qu'électrique. Quoi.
Concernant les GIFs, ils devraient aligner d'ici la fin de saison 16 joueurs de la formation française en moyenne. Ils sont à 15,9 là, je crois, donc ils sont quasiment au niveau, mais il va falloir continuer à les aligner.
Mais il ne faut pas être à 16,1 hein, parce qu'il suffit que vous ayez un pépin
la dernière journée,
et c'est pas bon. Dernière ou les 2, 3, 4 dernières, quoi. C'est-à-dire que
toi tu prendras un peu de marge, quoi.
Ah ben moi, c'est leur but, hein, c'est de prendre de la marge avant le dernier mois de compétition, parce que s'ils pètent, enfin s'il y a des blessés, on le redit, hein, des blessés en GIF.
Ça peut être cata.
Ah ben ça peut être cata, oui, tout à fait. Alors évidemment qu'ils ne partiront pas avec des points en retard l'année prochaine, mais par contre ils feront jouer des espoirs. Et il se privera de ses meilleurs joueurs parce que ce sont des non-gifs pour la grande majorité.
Clermont, donc, qui va effectivement recevoir l'équipe de Yona, c'est... un match piège, c'est un match, vous sentez comment? C'est un match qui doit être facile normalement. Ouais, est-ce qu'après avoir pris 42-3 et avoir été défait à domicile face à Toulouse, Yona, c'est pas le même calibre, quoi.
C'est un match où clairement on doit prendre 5 points et c'est le seul enseignement qui aura à tirer de ce match. Point barre, parce que si ça se termine comme ça, les discours comme quoi on a effacé le match de La Rochelle ne pourra pas tenir parce qu'ils l'effaceront que sur la durée. Donc samedi prochain, c'est les 5 points point barre. Pour le reste, voir si Clermont a soigné ses mots, on le verra sur la durée, on le verra contre Pau, on le verra plus tard. Mais samedi, c'est vraiment l'objectif comptable avant tout et simplement, quoi.
J'avais une dernière question concernant le match à La Rochelle, j'y vais un peu dans le désordre, mais c'est Ronan Nogara qui a déclaré chez nos confrères de Canal+, que pour lui c'était une prestation normale de son équipe, en tout cas c'est ce qu'il attendait de la part de son équipe. Pour vous, ils ont un peu surperformé hier La Rochelle ou c'est effectivement une prestation normale?
Non, c'est une équipe qui était pas dos au mur, mais qui est au classement, qui a besoin de se rassurer, qui n'est pas dans le top 6, ben, qui n'y était pas, et à qui il manque plusieurs joueurs cadres. Et qui avait besoin de faire un gros match à cet instant T de la saison, en plein tournoi, il faut le rappeler.
Au moment où Clermont doit aligner des joueurs gifs.
Oui, mais même au-delà de l'adversaire qui est venu, ils avaient besoin de se rassurer. Quoi. Ouais, ils venaient de perdre deux matchs qui ont un peu rendu fou furieux Nogara, donc lui aussi avait donné rendez-vous à ses joueurs. Sauf que là, les Rochelais ont répondu présent.
Sans faire non plus, ils ont largement profité des largesses et de l'indigence de Clermont pour peut-être emmagasiner les confiances qui sera importante dans la perspective de la réception du Stade français. Parce que sur le match proprement dit, il y avait quand même eu, même de la part de La Rochelle, bon, des choses qui n'étaient pas très, très, très jolies. Hein, et il leur manque encore aussi beaucoup de joueurs importants qui fait que bon, cette équipe ne tourne pas au régime où elle devrait tourner quand même.
La touche de l'ASM, c'est on va dire épisodique ou c'est un mal profond pour vous?
Alors c'était un des points faibles sur la première partie de saison, curieusement.
Ouais.
Ça l'était encore en janvier, et puis alors, là ça fait deux, enfin c'est déjà arrivé dans la saison qu'il soit déréglé. Bon, on aurait pu parler d'un accident de parcours, mais là ça fait deux matchs d'affilée où vraiment il passe à travers, hein, tout clairement. Il y a beaucoup de, alors que notamment sur les lancers de Fainga, Urios vantait et louait la précision de son talonneur à ce niveau là Force est de constater que là, il a... Ça... Et puis bon, le jeune Couli, c'est encore autre chose.
Ça a même été pendant longtemps la meilleure équipe sur ses lancers, avec un taux de...
Ouais, tout à fait.
Un pourcentage qui était très très élevé. Hein,
et là, le pourcentage, il a nettement baissé. Et ces deux derniers matchs ne sont pas très encourageants, en effet, sur la conquête de touche.
Et pour terminer, la défense. 42 points encaissés à La Rochelle, 39 face à Toulouse.
Ce qui est terrible dans cette équipe, c'est que ces derniers temps, on a l'impression que chaque fois que l'équipe adverse a un temps fort, elle brèche et elle va à dame, quoi. Donc c'est ça qui est terrible. Je veux pas faire un rapprochement, mais c'est un peu comme la défense du Clermont Foot, où chaque fois qu'il y a une occasion, ça fait but pour l'adversaire. Et bien pour la SM, c'est un peu pareil, quoi. Chaque fois qu'il y a un temps fort pour l'adversaire, ça fait essai. Donc c'est un peu ça rend les choses un peu compliquées. Et difficile.
Gros week-end pour les clubs clermontois, effectivement.
Oui, la défense, alors juste à une sotte, hein, sur les deux premiers mois, ils étaient redescendus sur les six derniers matchs à 16 points encaissés. Et là, ils viennent d'en encaisser, je crois, ça fait une moyenne de 40 ou pas loin, quoi, 38.
Ça fait penser un peu à cette défaite à domicile face à Bordeaux. Il y a 40 points d'encaissés aussi déjà.
Ouais. Sauf qu'ils étaient encore dans le match. Sur les dernières actions, parce qu'ils prennent un essai à la sirène.
Non, mais un peu comme Toulouse, le match de Bordeaux, en fait.
Ah oui, Bordeaux et Toulouse, oui, ouais. D'ailleurs, Urios l'avait dit que ça lui faisait penser au match de Bordeaux, oui.
Ah ouais.
Dans un scénario un peu différent, mais ça ressemblait, oui.
Mais Clermont prend trop de points, ça c'est certain.
Ah bah, clairement, sur les deux derniers matchs, oui, c'est vrai que la défense a fait flotter les rubans, comme on dit. Hein.
Donc si je fais le bilan, on en reste à ce qu'on s'était dit au début, on n'a pas beaucoup évolué, on a expliqué, mais on n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, pour toi Christophe, c'est un tournant, pour toi Didier, pas forcément, puisque ça va pas marquer une grosse différence par rapport à ce qu'on a vu au début de saison. Clermont qui alterne un peu le chaud et le froid.
C'est une certaine continuité, malheureusement.
Voilà, et qui fait que Clermont trouve bien sa place dans le ventre mou du championnat.
Une continuité dans la constance, oui.
Ok, très bien, merci messieurs. Allez, on va passer tout de suite à vos top flop. Christophe, top ou flop?
Alors, un top, pas original parce qu'il a été beaucoup mis en lumière et en exergue ce week-end, c'est le centre de l'UBB, Nicolas Deporter, qui d'ailleurs a été appelé par Galtier en équipe de France. Un joueur de 20 ans qui est champion du monde des moins de 20 ans. Et qui a des qualités de plus en plus évidentes et mises en lumière de plus en plus souvent le week-end sur les terrains du top 14. C'est un joueur solide, c'est un joueur altruiste, c'est un joueur qui va vite, qui sait faire des passes, qui défend très très bien. Je ne sais pas si c'est une nouvelle pépite du rugby français, parce que le rugby français engendre quand même depuis maintenant quelques années ils sont champions du monde régulièrement des moins de 20 ans.
Parle bien en face,
Pardon. Voilà, ouais. Les moins de 20 ans, ils en sont à 3 titres, je crois, donc c'est pas anecdotique et c'est un symbole. Et ce garçon symbolise bien la richesse du rugby français.
De Porteur, il a inscrit un doublé ce week-end face au Racing. Didier, top ou flop ?
Ce sera un flop et adressé à l'entraîneur de Toulon, l'ancien Clermontois Pierre Mignoni, qui a un peu pété les plombs en conférence de presse à l'issue de la victoire de Toulon contre Perpignan samedi. Il s'en est pris à un confrère de l'équipe avec véhémence en lui demandant de citer les sources, enfin de citer le joueur qui lui avait révélé quelques petits secrets de vestiaire qui n'étaient pas non plus des révélations fumeuses, en plus parce que ça parlait de cigarettes. Bref, là ça montre simplement qu'il pense qu'il était dans une période très, très tendue sportivement. Et
il restait sur 3 défaites Toulon.
3 défaites et que cette victoire, bon, c'était un immense soulagement. Et la cocotte a explosé un petit peu. On n'était pas habitué à ce genre de sortie, mais c'est pas très, très joli quand même.
Un coach sous pression, c'est pas un scoop non plus. Les coachs sont beaucoup sous pression.
Alors, un journaliste n'a pas révélé ses sources, déjà, ça c'est la première chose.
Puis la chasse à la taupe, on sait ce que ça vaut. Donc,
il a vraiment aucune chance qu'il le fasse publiquement. Enfin, bref, c'était chose vaine.
C'est surtout qu'il lui demandait, il lui reprochait d'avoir sorti ça, prétextant que c'était un message privé. Là aussi, on peut débattre. Est-ce que c'était vraiment quelque chose c'était pas la sphère privée totalement de l'entraîneur, hein. Enfin, il me semble. Hein.
Oui, oui.
C'est quelque chose qui a été diffusé sur un groupe de 45 joueurs, un groupe WhatsApp. Bon. Voilà.
Bon, un peu une tempête dans un verre d'eau, mais en tout cas, effectivement, pas la bonne attitude pour Pierre Mignoni. Merci, messieurs. On va suivre, bien sûr, l'actualité de l'ASM Clermont en regardant si effectivement les hommes de Christophe Furios, non pas sur le week-end prochain, mais enfin déjà, et puis sur la longueur, vont.
Si ça perd samedi prochain, là, il y aura vraiment. Là, ça sera tempête, grosse tempête.
Le podcast de lundi risque d'être brûlant.
On verra effectivement la température du podcast de lundi. Merci messieurs, bonne semaine. Ciao.
Merci, au revoir.
Au revoir.